Il est 7h.
La première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose.
Et c'est cette expérience qui lui vaut aussi le titre de commandant cette fois-ci. Thomas Pesquet décolle tout à l'heure pour la Station Spatiale Internationale pour sa deuxième mission dans l'espace. Nous sommes au centre de commandement SpaceX dès le début de ce journal. Un déconfinement progressif et un protocole strict pour les écoles avec demi-jauge et autotest. Le gouvernement joue la prudence face au virus mais choisit de maintenir les épreuves du bac. Dans ce journal également, les policiers qui craignent pour leur méthode d'enquête après une décision du Conseil d'État sur le bornage téléphonique. Et puis ce coup de tonnerre à Bordeaux. En football, le propriétaire américain des Girondins s'en va et coupe les vivres. Juste après ce journal, l'éclairage écho. Daniel Fortin, suivi du regard international de Vincent Hervouet.
Le succès du sommet sur le climat de Joe Biden, l'Amérique est de retour et son président acclamé presque autant que Donald Trump était hué.
L'édito sport de Virginie Fulpin et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Quand on baille aux corneilles, on ne fait pas grand-chose. Et bien moi je vais m'activer, je vais vous raconter d'où vient cette expression.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Cette fois-ci, la météo devrait le laisser décoller. Départ prévu à 11h49, heure française, pour la mission qui emmènera Thomas Pesquet vers la Station Spatiale Internationale. Il va devenir le premier Européen à voler à bord d'une fusée privée, la capsule Crew Dragon de l'entreprise SpaceX qui réalise ce lancement pour la NASA.
Et nous sommes au centre de commandement de SpaceX à Hautain, en Californie, où nous attend Benoît Clerc. Bonjour Benoît.
Bonjour, bonjour à tous.
À moins de 5 heures du décollage maintenant, ça y est, tout le protocole est lancé.
Oui, Thomas Pesquet et ses trois collègues ont été réveillés voici un peu plus de 2 heures. Ils sont en train de finir leur petit déjeuner. Hier, en raison de la météo défavorable pour le lancement, vous le savez, ils ont eu finalement quartier libre pour une dernière promenade sur la plage de Cap Canaveral. Et l'astronaute européen en a profité pour poster une photo de leur groupe regardant la mer sur les réseaux sociaux. Dans quelques dizaines de minutes maintenant, ils vont quitter leur centre de quarantaine à bord de 2 Tesla blanches et rejoindront le mythique pas de tir 39, depuis lequel près de 400 astronautes se sont envolés avant eux depuis le début de la conquête spatiale. Thomas Pesquet va non seulement effectuer plusieurs dizaines d'expérimentations en apesanteur, tant pour l'Agence spatiale européenne que le Centre national d'études spatiales français, mais il prendra également le contrôle comme commandant de bord de la Station spatiale internationale en juillet prochain.
Benoît, la fusée décolle donc de Cap Canaveral, vous l'avez dit, en Floride, mais le vol sera contrôlé depuis le centre de commandement où vous vous trouvez à l'autre bout du pays, en Californie. L'ambiance est déjà studieuse, concentrée?
Oui, alors ici au Command Center, vous l'imaginez, l'ambiance est fébrile et même si on a limité au minimum le personnel de SpaceX vacciné, testé et masqué qui est présent dans le centre de contrôle du vol, il ne faut pas oublier que c'est seulement le second décollage d'une capsule Dragon habitée par 2 Américains, un Japonais et Thomas Pesquet. Le compte à rebours débute dans maintenant moins de 30 minutes à 7h30 heure de Paris, un peu plus de 4 heures avant le décollage.
Merci Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 en ligne du centre de commandement SpaceX à Hautain en Californie.
7h03 sur Europe 1. Pendant que Thomas Pesquet s'envole, nous aussi on s'apprête à retrouver un peu d'espace. Déconfinement à partir du 3 mai, mais alors très progressivement.
Il n'y aura plus de limite de déplacement, a confirmé hier soir Jean Castex, mais le couvre-feu restera en vigueur. Le pic de la troisième vague semble derrière nous, a déclaré le Premier ministre, tout en rappelant que la pression dans les hôpitaux restait élevée. La rentrée dans les écoles aura bien lieu lundi. En tout cas, bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Mais ce sera sous un protocole sanitaire strict, avec des classes au complet uniquement en maternelle et en primaire, demi-jauge pour les lycées et c'est nouveau au collège aussi, dans les 15 départements les plus touchés par l'épidémie.
Oui, c'était une revendication de tous les syndicats, faire des demi-jauges au collège comme au lycée. C'est la première fois que le ministère de l'Éducation nationale s'y résout. Il faut dire que dans les zones où le virus circule intensément, certains collèges accueillent autant d'élèves que de gros lycées avec des locaux parfois exigus. Ce passage en demi-jauge est réservé aux classes de 3e et de 4e, soit aux élèves les plus autonomes dans leurs apprentissages. Et pourtant, ça va tout de même forcément contraindre les parents dès le 3 mai à des adaptations d'emploi du temps. Au lycée, les demi-jauges sont étendues à tout le territoire national. Avant les vacances, c'était dans les 19 départements confinés. Et pourtant, Jean-Michel Blanquer a confirmé le maintien des épreuves du bac, grand oral et écrit de philo. Le brevet est également maintenu.
Au lycée, les élèves de plus de 15 ans vont aussi découvrir les autotests à partir du 10 mai.
Oui, autotests qui se dérouleront au lycée une fois par semaine, sous supervision du personnel de santé, de médiateurs ou bien d'enseignants volontaires.
Et puis une confirmation, Virginie, je le disais, sur le protocole en cas de cas positif, un protocole très strict.
Oui, dès lundi, les écoles vont de nouveau appliquer la règle 1 cas de Covid, une fermeture de classe, règle qui s'étendra ensuite au second degré. Au primaire, les tests salivaires vont être doublés et tous les instituteurs et aides maternelles recevront gratuitement 2 autotests par semaine à réaliser chez eux.
Tout ce qu'il fallait retenir des mesures annoncées hier soir pour l'école. Avec vous, Virginie Riva. Merci Virginie.
Et vous l'avez dit, épreuve du bac maintenue, notamment le nouveau grand oral, alors que tous les élèves n'auront pas cours de la même façon. C'est incompréhensible pour le syndicat d'enseignants SE-UNSA, son secrétaire général, Stéphane Crochet.
Ah, on voit bien un entêtement à vouloir absolument maintenir quasiment de façon symbolique ces épreuves du bac, alors que tout le reste jusqu'ici a été adapté et qu'on va se mettre en difficulté pour organiser les oraux et l'écrit de philosophie notamment. Et puis, il va falloir organiser ces épreuves orales avec la crainte pour les élèves d'être malades ou symptomatiques au moment où arrivera l'épreuve. Et donc pour eux, toutes les complications s'il fallait être sur des épreuves de rattrapage plus tard.
Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat SE-UNSA.
Pas de date de reprise précise. En revanche, pour une réouverture des terrasses, des commerces, des lieux de culture, elle se fera autour de la mi-mai, si la situation le permet, a précisé Jean Castex, et probablement pas au même rythme dans toutes les régions.
C'est peut dire qu'elle est attendue, en tout cas, notamment dans les régions touristiques, où l'on se réjouit déjà hein, quand même de la fin de la limite des 10 km à partir du 3 mai, comme ici à Pornic, en Loire-Atlantique, où s'est rendu Charles Guyard.
La saison va démarrer le 3 mai. Ouais.
Derrière son comptoir de la fraiserie, Marianne est soulagée. Avec la levée des restrictions de déplacement, cette institution locale risque d'être prise d'assaut.
Ça va refaire venir du monde, ouais, complètement. C'est vrai que les 10 km coupent un peu.
Non loin du glacier, le manège rétro et gourmand tourne, lui, parfois presque à vide, faute d'enfants. Du coup, après un début de printemps bien morose, le gérant Michael attend évidemment le 3 mai avec une certaine impatience.
On aurait tous les gens des alentours. On arriverait à avoir les Nantais, par exemple, parce que Pornic, c'est pas loin de Nantes. C'est vrai que c'est un gros manque de ne pas avoir tous ces gens-là, surtout le week-end.
Même constat et même enthousiasme chez ce marchand de gaufres installé sur le port. Pour Tony, le retour des vacanciers ou de simples visiteurs devrait redonner un coup de fouet.
Oui, ça va changer pas mal pour nous, puisqu'on aura les Parisiens, tout le monde, qui pourront se déplacer jusqu'à Pornic. C'est sûr que les week-ends, on travaillera mieux. Ce sera que positif. Hein.
Que du positif, à condition, rappelle Loïc, patron du restaurant du château, d'être bien prudent, histoire de ne pas repartir dans le rouge avant l'été.
Faut pas rouvrir pour refermer, c'est ça qui me gêne.
Pornic, Charles Guyard, Europe 1.
Et notez qu'un quatrième vaccin vient compléter notre arsenal. À partir de samedi, le sérum Johnson & Johnson disponible pour les plus de 55 ans.
7h08 sur Europe 1, l'actualité judiciaire à présent et cette décision du Conseil d'État qui inquiète les services de police.
Des pans entiers de leurs enquêtes reposent sur l'utilisation des données téléphoniques des malfrats. Plus de 2,5 millions de demandes faites chaque année auprès des opérateurs pour éplucher les fameuses fadettes, ces fichiers qui permettent de connaître la localisation à l'instant T d'un téléphone ou bien le lien entre deux suspects grâce au bornage. Et bien dans un arrêt, le Conseil d'État vient de limiter l'accès à ces données au nom de la protection de la vie privée. Justin Morin, c'est un coup de massue pour le milieu judiciaire.
Oui, effectivement, parce que du point de vue d'un procureur que j'ai joint, c'est une catastrophe. Ces données téléphoniques, c'est comme les relevés bancaires. Les officiers de police judiciaire les demandent de façon quasi systématique. Elles sont conservées un an par les opérateurs et c'est aujourd'hui un outil d'enquête majeur pour obtenir des preuves. Alors le Conseil d'État n'interdit pas leur utilisation. Ce sera toujours possible pour les dossiers de terrorisme et de criminalité organisée, mais plus pour les affaires dites de crimes ordinaires. Alors reste encore à préciser à quoi ça correspond juridiquement. Mais Éric Maillot, le procureur de la République de Clermont-Ferrand, alerte sur les risques de ralentissement des enquêtes.
Un père de famille séparé qui enlève son enfant de force, ça n'est pas de la délinquance organisée, c'est une affaire pourtant grave. On ne pourrait pas recourir aux fadettes et donc on ne pourrait pas vérifier l'endroit ou le téléphone de cette personne a borné, par exemple. Il y a la question aussi de savoir si les trafics de stupéfiants pourraient être également concernés par cette limitation. Si on enlève cet élément-là, on affaiblit la capacité des enquêteurs, c'est très clair.
Comme d'autres magistrats, il attend désormais la circulaire d'application du ministère de la Justice. Elle doit préciser et acter dans les prochains jours la fin de l'utilisation systématique de ces données téléphoniques.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Des pompiers visés par des tirs de feu d'artifice alors qu'ils intervenaient sur l'incendie volontaire d'une école maternelle à Lille hier soir. Il n'y a pas eu de blessés, mais le bâtiment est dévasté. La rentrée de lundi ne pourra pas s'y tenir. La maire de Lille, Martine Aubry, condamne fermement ces faits.
Il a commencé hier en visioconférence, deuxième et dernier jour du sommet mondial sur le climat aujourd'hui.
Les plus gros pollueurs de la planète ont presque tous annoncé ce jeudi des objectifs plus ambitieux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Effort multiplié par 2, par exemple, pour les États-Unis, accru aussi pour le Japon, le Brésil ou l'UE. Mais ça ne suffit toujours pas à rester dans les clous de l'accord de Paris qui limite limite le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. D'où la colère hier soir de la jeune activiste Greta Thunberg qui s'est adressée aux dirigeants mondiaux.
Combien de temps pensez-vous honnêtement que les gens au pouvoir comme vous vont s'en tirer ? Combien de temps pensez-vous pouvoir continuer à ignorer la crise climatique, l'aspect global de l'équité et les émissions historiques sans être tenu pour responsable ? Si nous voulons respecter nos promesses et nos engagements dans l'accord de Paris, nous devons mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, arrêter les nouvelles explorations, les extractions, désinvestir complètement des combustibles fossiles et garder le carbone dans le sol.
Greta Thunberg dans une vidéo publiée hier soir. En bref, à l'étranger, Emmanuel Macron est arrivé au Tchad pour les obsèques aujourd'hui de l'ancien président Idriss Déby. En Haïti, 3 des 7 religieux catholiques enlevés il y a une dizaine de jours ont été libérés, mais pas les 2 Français, annonce la conférence des évêques.
On termine avec les sports. Coup de tonnerre en football pour les Girondins de Bordeaux.
Le fonds d'investissement américain qui avait racheté le club il y a 3 ans pour 100 millions d'euros. Aujourd'hui, il s'en va, il coupe les vivres, pas satisfait du retour sur investissement. Bordeaux se retrouve dans l'incertitude la plus totale sous la protection du tribunal de commerce alors que son maintien en Ligue 1 n'est toujours pas assuré. Les amoureux du club au scapulaire sont abasourdis à l'image de l'ancien entraîneur Elie Bop.
C'est un choc évidemment très difficile à encaisser pour tous ceux qui aiment les Girondins, pour les supporters, pour tous ceux qui ont connu ce club qui fait partie vraiment de l'histoire du football français. Et l'avenir est incertain parce que là, soyez un repreneur et le déficit est conséquent, le rachat du club, enfin, je veux dire, il faut beaucoup d'argent. Soit c'est direction nationale 3 et c'est terrible pour tous les gens qui travaillent là-bas, pour tout ce que se représente aussi ce club, pour le football français, pour la ville, pour tous ces supporters qui sont nombreux. Voilà, c'est vraiment une cata, quoi. Voilà.
Une catastrophe. Mais le maire de Bordeaux, lui, n'est pas surpris. Il avait voté contre ce rachat par King Street à la Métropole en 2018. Pierre Urmic qui met en garde aujourd'hui les autres clubs français qui sont lorgnés par de grands fonds financiers.
Tout le monde savait, à part peut-être quelques Américains, que les clubs de football en France ne sont pas rentables, que celui-là était endetté, qu'ils le payaient très cher. Hein. Ils l'ont payé 100 millions d'euros. Ils ont investi de l'argent dans ce club et ils n'ont pas eu de retour financier. Donc la situation, sur le plan financier, elle était précaire. Et bon, et là, ils ont choisi cette période qui est difficile sur le plan sportif, en plus, pour se retirer du financement du club. Ça manque peut-être un peu d'élégance. Donc je pense qu'on va tous serrer les coudes pour faire en sorte que ce club soit repris et puis connaisse une nouvelle vie et qu'une page soit rapidement tournée.
Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Bordeaux actuel 16e de Ligue 1 qui a encore 5 rencontres seulement pour assurer son maintien.
Il y a des investisseurs qui n'ont rien à faire dans le football. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin et c'est dans une dizaine de minutes.
Et puis y aura-t-il des sanctions contre les 12 grands clubs européens qui ont voulu faire sécession au sommet du foot européen? Réunion de l'UEFA aujourd'hui pour en décider. Il ne devrait pas y avoir d'exclusion mais des possibles sanctions contre les présidents de ces clubs sécessionnistes.
On va rappeler que le PSG affronte Manchester City qui fait partie de ces 12 clubs la semaine prochaine en demi-finale de Ligue des Champions. Merci Théo Manval. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 7h40, tête à tête autour d'un tabou masculin. La calvitie, la chute de cheveux. Quelques symboles que cela charrie, quelques solutions aussi avec un journaliste qui à la fois enquête et témoigne. Julien Dufresne-Lamy, c'est son nom. Auteur de Anti-chute chez Flammarion, les traitements, les opérations. C'est très sérieux, vous allez l'entendre. Ça vous concerne peut-être, on en parle dans le tête à tête Europe Matin à 7h40. Et après cette phrase, il faut... Sans transition, regardez Daniel Fortin dans les yeux pour annoncer l'éclairage éco. Bonjour Daniel.
Juste avant le décollage de Thomas Pesquet, je vous parle de la guerre commerciale qui fait rage dans le ciel.
Ce sera juste avant le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Thomas Pesquet décolle ce matin de Floride vers la station spatiale internationale à 11h49, heure française. Derrière cette mission qui passionne la France, c'est une véritable guerre commerciale qui se prépare dans l'espace.
Oui, cette guerre se déroulera entre 400 et 1300 km au-dessus de nos têtes. C'est ce qu'on appelle l'orbite basse, là où se trouve la fameuse station internationale. Une station qui est d'un des symboles d'ailleurs du conflit qui s'annonce. Pourquoi ? Eh bien parce que ses parrains, les États-Unis et la Russie notamment, se déchirent sur son avenir. Il faut savoir qu'elle n'est pas de toute première jeunesse, 23 ans en tout. Elle craque de toutes parts et du coup, ça coûte très cher, entre 4 et 5 milliards de dollars de maintenance chaque année. Du coup, la Russie, qui veut sa propre station, menace de se retirer. Mais les États-Unis refusent, non pas qu'ils tiennent particulièrement à cet engin un peu périmé, mais ce qu'ils veulent éviter à tout prix, c'est de laisser la Chine s'installer en majesté restés sur cette orbite avec leur propre station spatiale. Ça, c'est le premier acte du conflit, celui de la souveraineté.
Et le deuxième concerne non plus les États-Unis, mais cette fois les acteurs privés.
Oui, et nous sommes toujours au même endroit, dans l'orbite basse. Et là, ce sont les grandes fortunes mondiales qui s'affrontent. Elon Musk, le patron de SpaceX, veut installer 42 000 mini-satellites dans cette partie de l'espace. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, veut de son côté en lancer 3 000. Ah oui. Ce sont des programmes gigantesques. Si on compare au nombre de satellites actuellement dans le ciel, ils sont à peine 6 000, dans la moitié hors d'usage. Alors, pourquoi autant d'engins? Eh bien, c'est pour préparer le futur monde des objets connectés. Il faudra beaucoup de relais pour brancher de plus en plus de clients à Internet, pour piloter des voitures autonomes ou pour livrer des clients par drone. Ces relais, on les appelle les méga-constellations. Tout le monde veut la sienne. Les GAFA américains, bien sûr, mais aussi les Chinois.
Cette colonisation de l'espace que vous racontez, enfin de l'espace, de la proche banlieue de la planète Terre, est-ce que l'espace d'ailleurs peut accueillir tout le monde?
On pourrait croire que oui, qu'il y a de la place, mais ça n'est pas le cas. On va de se heurter à un problème d'environnement, notamment que faire des débris spatiaux quand ces dizaines de milliers de satellites vont mourir? Peut-on en lancer à l'infini? Peut-on laisser prospérer ce qui est aujourd'hui une sorte de Far West sans véritable règle, sinon celle du premier arrivé, premier servi? Voilà les enjeux. On sait déjà que les États vont devoir réguler cette ruée vers l'or des temps modernes. C'est en tout cas une des batailles les plus passionnantes du siècle qui est en train de se préparer.
Si je vous suis bien, on a déjà commencé à polluer là-haut. On n'a pas encore fini en bas, ça a commencé. C'est là-haut.
On réplique.
Merci Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos, 7h18. Le regard international, Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le sommet de Joe Biden sur le climat est un succès.
Oui, la Chine avait comparé le retour des États-Unis à celui du mauvais élève qui revient sur les bancs de l'école après avoir séché les cours. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé hier. En doublant l'aide sur le climat aux pays en développement et en faisant des promesses mirobolantes de réduction des gaz à effet de serre, Joe Biden a été le premier de la classe. On a vu la cour de récréation applaudir et acclamer le plus grand qui a été porté en triomphe. Les Européens se sont livrés à leur concours de flatterie habituel. Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, tout le monde est ravi, tout le monde est gentil, même Xi Jinping est déterminé à travailler en particulier avec les États-Unis.
Vous dites que c'est un tournant, l'Amérique est de retour.
Donald Trump s'ennuyait à mourir dans les sommets, il le montrait, c'était pénible. Joe Biden, lui, a survécu à 36 ans de séance au Sénat. Il peut tout supporter, même un sommet multilatéral en visioconférence, avec des discours préenregistrés, des vœux pieux, des promesses d'ivrogne. Le soulagement est général. C'est l'Amérique qu'on connaît, qui rassure, qui donne l'impulsion, qui donne l'exemple. Joe Biden, hier sur le climat, c'était le grand-père de Greta Thunberg, mais la positive attitude d'un prédicateur et le sens de la pub du commandant Cousteau.
Beaucoup pour un seul homme. Hein ? C'est beaucoup pour un seul homme.
Beaucoup, oui. Et alors, sur tous les sujets depuis une semaine, c'est pareil. Le repli d'Afghanistan, les 200 millions de vaccins déjà distribués, la condamnation de Derek Chauvin. On en pense qu'on en veut, mais le président est aux commandes. Ça fait 100 jours et il parle désormais comme Roosevelt, dont il a mis le portrait dans le bureau ovale. Il faut agir et agir maintenant.
Alors il parle et il fait comme Roosevelt.
Ben oui, parce que le plan de relance à 2300 milliards, c'est 2 à 3 fois moins que le New Deal, mais c'est massif pour rénover les infrastructures, créer de l'emploi, soutenir des projets écolo et numériques, en plus des 1900 milliards du plan d'urgence déjà voté. Il y a là une rupture peut-être dans la politique libérale américaine. Et puis il y a un retour à la tradition dans la prétention à incarner le bien et à guider les nations. Le premier vrai sommet en chair et en os de Biden, ce sera à la mi-juin à Bruxelles, à l'OTAN. L'Amérique de retour, pour le meilleur et aussi pour le pire.
Merci Vincent Hervouette, le regard international tous les matins sur Europe 1, 7h21. Tout de suite, l'édito sport, Virginie Fulpin.
On croyait que le foot business avait touché le fond avec la Super League. On voit avec King Street et les Girondins de Bordeaux qu'on peut encore creuser.
Mais quelle semaine, Virginie Fulpin. Ce sera juste avant le rendez-vous d'histoire que nous avons avec Stéphane Bern. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Girondins de Bordeaux ont été placés sous la protection du tribunal de commerce hier. L'actionnaire américain King Street lâche le club en pleine tempête. Pour vous, ça prouve une fois de plus qu'il y a des investisseurs qui n'ont rien à faire dans le football.
Ouais, quelle semaine. On pensait avoir touché le fond avec la Super League, sa négation du sport et sa chute éclair. Mais non, on creuse encore jusqu'au fonds d'investissement King Street, haut représentant des bas-fonds du foot business et fossoyeur des Girondins de Bordeaux. Ce monument du foot français a brutalement changé d'adresse hier, de King Street au boulevard des Illusions Perdues. Enfin, je dis brutalement, je parle du communiqué lapidaire du club. Je cite « L'actionnaire a fait savoir qu'il ne souhaite plus soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs. » Au moins, c'est clair. Quand vous quittez le navire, au moment où votre équipe lutte pour le maintien, quand les joueurs apprennent votre désengagement à leur descente d'avion pour un stage de la dernière chance, dans ces moments où tout le monde devrait être uni dans l'adversité, c'est bien que votre club et le football en général sont les derniers de vos soucis. Un ultime communiqué de la honte et puis s'en va, sans rien assumer. Après King Street, vous tournez à droite et vous êtes dans l'impasse. C'est une fin brutale, oui, après une longue agonie.
Oui, ça fait longtemps que les Girondins de Bordeaux ont entamé leur descente aux enfers.
Bah, King Street peut se cacher derrière la crise sanitaire et celle des droits télé pour justifier son retrait en race campagne, mais l'actionnaire n'a pas attendu ces crises pour accumuler les fiascos tout seul. Que ce soit sportivement, financièrement ou dans ses rapports avec les supporters, ça fait 2 ans que c'est un grand chelem du n'importe quoi à Bordeaux. Voilà ce qui arrive quand on débarque dans le football sans rien connaître de ce milieu, en méprisant le jeu, l'histoire, les grands noms du club et les fans. Ces supporters qui tirent la sonnette d'alarme dans le vide depuis des mois, qui manifestent sans relâche et se heurtent à un mur d'incompréhension et d'oreilles bouchées. King Street a cru pouvoir gérer un club de football comme une entreprise lambda et en tirer des bénéfices. Mais c'est pas comme ça que ça marche. À un moment, il va falloir arrêter de se demander pourquoi il y a une érosion de l'intérêt pour le football. La réponse est là, sous nos yeux. Ça n'est pas juste parce que les jeunes n'arrivent pas à rester concentrés 90 minutes devant un match. C'est parce qu'il y a des investisseurs qui n'ont rien à faire là, qui piétinent les traditions et les valeurs et cassent les rêves, comme ils viennent de briser les Girondins de Bordeaux.
Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins à 7h20. Merci beaucoup Virginie. Et tiens, quelques notes de musique classique ce matin. Le premier concerto pour piano de Tchaïkovski. Tchaïkovski aux Jeux Olympiques. Pour remplacer l'hymne officiel de la Russie, vous le savez, la nation russe est suspendue pour cause de sanctions antidopage. Les athlètes vont participer sous bannière neutre. Le CIO a validé le compositeur russe Piotr Tchaïkovski, qu'on écoute un peu ce matin. Premier concerto pour piano. J'ai arrêté le compte à rebours, on est à quelques jours des Jeux Olympiques de Tokyo. On doit être à 84, 85 jours, quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà, ça doit être à peu près ça.
À peu près ça. Merci Virginie Fulpin, il est 7h26. Et on retrouve Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour Virginie, bonjour à tous. Aujourd'hui, une expression qui ne vous ressemble pas, ni Mathieu, ni Virginie. Hein. Vous, les hyperactifs d'Europe 1, les Stakhanovis de l'info, c'est bailler aux corneilles.
Quand on dit
ça
bailler,
dépend des heures.
Oui, ça peut arriver, il faut être honnête. Quand on dit bailler aux corneilles, ça veut dire bien qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on reste inactif. Alors, bailler, on peut imaginer. Imaginez pourquoi, mais les corneilles, là, c'est un mystère.
Alors déjà, méfiez-vous de bailler, car il y a bailler, B-A-Y-E-R, avec donc Y, et bailler, B-A-I-2-L-E-R. Bailler avec un Y, c'est ouvrir tout grand. On utilisait ce verbe au XVIIe siècle et aujourd'hui, on ne le fait plus, sauf dans cette expression « bailler aux corneilles ». Quant à l'autre « bailler », c'est ouvrir grand la bouche quand on est fatigué et par extension, tout ce qui est mal fermé une porte peut ainsi être entre bailler, B-A-I, deux L et un vêtement peut bailler aussi. Les corneilles, ce sont les oiseaux, évidemment, que l'on connaît. Et au XVIe siècle, on les considérait comme sans importance. Mais cela désignait aussi les fruits d'un arbre appelé cornouiller, également surnommé Olivier de Normandie. Et ce, bien avant le réchauffement climatique. Bref, bailler avec un Y aux corneilles, c'est rester bouche bée devant des oiseaux quelconques, rien de bien passionnant. En allemand, aujourd'hui, une expression dit « regardez la table de chevet ». C'est vrai que vous l'avez fait sans doute, c'est pas vraiment captivant. En Russie, on dit « comptez les corneilles ». Il faut déjà faire preuve de vivacité. Hein. Et en Espagne, on dit « estar a la luna de Valencia », être dans la lune de Valence. Je vous rassure, on parle de la ville.
Oh.
N'oubliez pas, de temps en temps, de bailler aux corneilles et n'oublions pas ce que disait Victor Hugo, ne rien faire est le bonheur des enfants et le malheur des vieux.
Ouh, là, on va réfléchir sur cette citation de Victor Hugo. Historiquement vôtre, c'est à 16h avec Mathieu Noël.
Oui, on réunit le couturier Pierre Balmain, le dandy Jacques de Bachère et une chatte. Choupette, leur point commun, ils ont côtoyé Karl Lagerfeld de près.
A tout à l'heure, 16h. À 7h28, c'est Laurent Cabrol qui est avec nous pour la météo.
Et cette pensée aussi, il y a toujours un coin de ciel bleu pour qui le veut. La France entière le veut, ce coin de ciel bleu, pour sortir de notre marasme. Eh bien, il est là aujourd'hui, pour nous tous. C'est peut-être un signe. Ce ciel bleu, vous l'avez au-dessus de votre tête. Déjà, le soleil s'est levé, chers amis. Vous le voyez, vous avez peut-être un petit peu froid. Ne vous inquiétez pas, il fera 17 degrés à Belfort cet après-midi, 18 à Épinal, 19 à Caen, 20 degrés à Paris, Dijon, 21 à Marseille, Lyon, Clermont-Ferrand et Rennes, 22 à Avallon et Lons-le-Saunier, 23 à Brest, 24 à Toulouse, 25 à Bordeaux et 26 à Cahors. J'ai plaisir à égrener ces températures. Vraiment, elles sont agréables. Le soleil sera là avec un peu de vent de nord-est sur la Manche et toujours le vent d'automne dans son domaine. Demain, un léger voile va se promener sur la France. Dimanche, le temps va se dégrader sur les régions du sud. Mais enfin, la pluie sera dans les jours à venir. Si elle est là, elle sera probablement uniquement pour les gens qui habitent les régions méridionales. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal. Il est 7h30.
Nous constatons depuis 10 jours une baisse réelle de la circulation virale. Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée.
Un constat, mais peu d'annonces concrètes de Jean Castex. Un grand flou que dénoncent les restaurateurs, les profs aussi, à 3 jours de la rentrée scolaire. Dans ce journal, décollage imminent pour Thomas Pesquet. Il faudra 1 jour de voyage pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. Le tacle de Christian Jacob à Édouard Philippe, qualifié de traître des Républicains. Le bio qui se démocratise de plus en plus, ce n'est plus un produit de luxe. Et puis lors des sanctions contre les dissidents de l'UEFA après la tentative manquée de putsch de la Super League.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy. Julien Dufresne-Lamy, qui est écrivain et auteur de Anti-chute, une histoire de cheveux. C'est chez Flammarion, c'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. L'édito politique, Michaël Darmon.
Le chef de l'État veut le retour des jours heureux, pas le maintien des jours peureux.
Et notez bien l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, 8h15 sur Europe 1, le premier secrétaire du Parti communiste et candidat à la présidentielle, Fabien Roussel. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le pic de l'épidémie serait donc derrière nous, à en croire le Premier ministre. Le calendrier reste le même. Levée des limitations de déplacement en journée le 3 mai et réouverture des bars et restaurants à la mi-mai. Pas plus d'annonces pour les professionnels pourtant dans les starting blocks pour ouvrir leurs terrasses. Un énième suspense qui agace le chef Philippe Etchebest.
C'est toujours au conditionnel. On ne connaît pas encore les conditions véritablement d'ouverture des terrasses. J'aurais entendu dire qu'il y aurait des jauges à 35% oui. Et que ce serait que le midi. Là encore, c'est des conditions qui sont quand même assez dures à supporter. Et puis, d'autant plus que les ouvertures de terrasses ne concernent à peine que 40% de la restauration oui. En France. Donc, c'est un peu frustrant aussi. Après, je peux comprendre qu'il faille des paliers. Il faudrait surtout pas, le pire qui pourrait nous arriver aujourd'hui encore, c'est de réouvrir et qu'on nous demande de refermer au mois de septembre ou au mois d'octobre en suivant. Ça, ce serait terrible. Ouais. Donc, il faut vraiment rouvrir dans les meilleures conditions possibles pour ne plus refermer derrière. Le stop and go, c'est terminé. Ça suffit.
Voilà, Philippe Etchebest, invité du 18-20 de Julien Bugier hier soir sur Europe 1.
À propos de la rentrée scolaire, lundi, le protocole sanitaire se précise. 400 000 tests salivaires vont être déployés dans les écoles dès la semaine prochaine.
Et dans les lycées, ce sont des autotests qui seront distribués à partir du 10 mai. Mais là encore, les consignes de l'éducation sont encore trop floues, pointe Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes et secrétaire national du SNPDEN.
Il y a beaucoup d'incertitudes sur la façon dont les choses vont réellement pouvoir se mettre en place. C'est-à-dire qu'objectivement, faire un autotest à chaque lycéen toutes les semaines, sous la responsabilité de qui, à quel endroit, qui nettoie, qui encadre, quelle autorisation parentale préalable potentielle. Ben voilà, c'est beaucoup d'interrogations et pas beaucoup de réponses pour l'instant, mais je pense qu'on les aura d'ici, j'espère, quelques jours. Mais en tout cas, ça nous interroge beaucoup sur notre capacité à vraiment piloter cette opération.
Bruno Bobkiewicz avec Virginie Riva. Et puis dès demain, tous les Français de plus de 55 ans pourront être vaccinés avec le vaccin Janssen. 200 000 doses ont été livrées la semaine dernière.
C'est le grand jour pour Thomas Pesquet. L'astronaute français s'envolera peu avant midi pour la Station Spatiale Internationale.
Et il décollera depuis la base de Cap Canaveral en Floride, direction l'ISS donc, à 400 km au-dessus de nos têtes. 400 km pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'un Paris-Limoges.
Alors sauf que là où vous mettriez environ 4 heures pour rejoindre la capitale de la porcelaine. Pour Thomas Pesquet, le trajet sera légèrement plus long. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Un jour et une nuit de voyage pour 400 km ?
Oui, 23 heures de voyage dans ce vaisseau de SpaceX au design épuré et futuriste, sans aucun bouton, avec trois écrans plats. La combinaison blanche de Thomas Pesquet et de ses collègues aussi est futuriste. Ce sont des costumiers d'Hollywood qui ont conçu les scaphandres. L'astronaute français dormira un peu pendant le vol, c'est prévu. Et s'il faut 23 heures pour atteindre la Station Spatiale Internationale, c'est parce qu'il faut atteindre la vitesse de l'ISS, 28 000 km/h, et atteindre surtout la bonne orbite, explique Franck Devine, le chef du Centre des astronautes européens.
En 23 heures, on fait à peu près 15 tours autour de la Terre et tout doucement, on monte l'orbite pour se rapprocher aussi en altitude vers la station jusqu'au moment qu'on est vraiment dans l'environnement de la station 23 heures plus tard.
Et une fois arrivé sur la même ligne donc que l'ISS, le vaisseau pourra s'arrimer à la station spatiale.
Bon, on imagine alors qu'il faut avoir le ventre plein pour un tel voyage. Alors Thomas Pesquet a pu...
Bien, là, Sophie.
Bonne question. Alors Thomas Pesquet a-t-il pu se ravitailler une dernière fois avant de passer au plat de
fusée ? Oui, et pour son dernier repas avant le décollage, Thomas Pesquet a mangé du poulet rôti avec de la purée, un plateau de fromage français, puis de la glace. Alors maintenant, concentration. Le compte à rebours a commencé il y a quelques minutes à 7h30, heure de Paris. Le programme maintenant est calculé à la seconde près jusqu'au décollage. Et Thomas Pesquet et ses collègues monteront dans la fusée dans un peu plus d'une heure.
Laure d'Autriche, notre spécialiste espace sur Europe 1, on continue évidemment à suivre avec vous toute la matinée, ainsi qu'avec notre correspondant aux États-Unis, Benoît Clerc, les dernières minutes sur Terre de Thomas Pesquet jusqu'à son décollage juste avant midi. Donc.
La politique et l'attaque du président des Républicains Christian Jacob à Édouard Philippe lors du congrès des jeunes républicains sur Facebook. Christian Jacob qui n'a pas hésité à qualifier le maire du Havre de traître, de profiteur. Il l'accuse de tous les maux de ces dernières années.
Parce que c'est sauvé en courant et en nous trahissant. Et la réalité aujourd'hui comme chef de gouvernement, on lui doit tout l'échec de la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Notre-Dame-des-Landes, celui qui a tout lâché aux voyous, aux casseurs, c'est Édouard Philippe. C'est aussi lui qui a été incapable de porter la réforme des retraites. 3 ans de parlotte pour être incapable, au bout du bout, de réformer. C'est aussi celui qui a fait que les dépenses publiques sous Emmanuel Macron ont augmenté plus vite que sous François Hollande. Et puis, c'est quand même celui qui nous a amené les gilets jaunes. Donc moi, Édouard Philippe nous expliquait que c'est le candidat de la droite, j'ai un peu de mal, parce qu'il est caution, ça...
À l'étranger, les médecins d'Alexei Navalny, opposant numéro 1 au pouvoir russe, l'appellent à cesser sa grève de la faim au plus vite, alors que son état de santé continue de se dégrader. Ses médecins craignent pour sa vie.
Le sommet pour le climat initié par Joe Biden se poursuit aujourd'hui. 40 dirigeants réunis en visioconférence, engagés à coopérer pour lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, le président américain doit dévoiler le projet ambitieux des États-Unis de retour sur le devant de la scène après l'ère Trump.
Les questions environnementales, c'est l'occasion de se pencher sur nos habitudes de consommation pour mieux préserver la planète. Et ce matin, on va parler du bio. Vous faites partie peut-être des Français qui en mangent de plus en plus, plus 20% l'année dernière, avec une progression chez les jeunes particulièrement. Pierre Herbulot.
Je cherche à faire plus attention pour moi et pour l'environnement.
Une prise de conscience écologique. Voilà ce qui a poussé Adrien à se mettre au bio à tout juste 24 ans. Il en est convaincu, sa façon de consommer peut changer les choses.
Si j'essaie de manger moins de déchets avec moins de déchets, donc c'est plus facile au bio qu'à côté.
Dans le panier de Charlotte, 27 ans, tofu et lait de soja, si vous lui dites bobo, elle vous répond bien-être.
Très honnêtement, je préfère penser à ma santé et... S'ils veulent manger du McDo, c'est leur problème, quoi. Enfin, quitte à paraître bobo, honnêtement, je m'en fous complètement.
Encore faut-il pouvoir se l'offrir, le bio, plaisante Gérard, qui passe sans s'arrêter devant le magasin.
Vous connaissez la blague, quelle est la différence entre une salade bio et une salade normale ?
Allez-y.
5 euros.
C'est vrai, les prix sont plus élevés, la conséquence de rendement moins important sans pesticides.
Le prix de ma salade, c'est 1,30 euros.
Mais il ne faut pas faire de généralité, répond Jean-Maurice Després, le gérant de Biocoop à Boulogne-Billancourt.
On a créé chez Biocoop ce qu'on appelle les prix engagés, qui sont une sélection de produits sur lesquels on va volontairement nous faire des marges très très bas pour permettre l'accessibilité à des produits de base de la consommation.
Une stratégie payante, l'an dernier la consommation bio des ouvriers et des employés a progressé de 20%, un record.
Reportage signé Pierre Herbulot.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Pardonnez-moi, non mais c'est pas fini, le journal n'est pas du tout terminé.
Plus,
vous savez quoi,
encore.
Je vais me rester une page et je l'ai oublié. Sophie, on continue
Bien sûr.
Évidemment quand même le feuilleton de la semaine, pardonnez-moi. La Super League, l'UEFA devrait annoncer des sanctions contre les fameux séparatistes.
Oui, son comité exécutif se réunit aujourd'hui. La tentative avortée de supplanter la Ligue des Champions pourrait avoir des conséquences pour les 12 clubs à l'initiative du projet. Mais quelles conséquences exactement? La réponse avec Simon Rubin.
C'est un exercice périlleux pour l'UEFA. Sanctionner les clubs sécessionnistes pour montrer sa force, sans pour autant trop égratigner ses équipes prestigieuses, essentielles au business de la Coupe d'Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'il est hors de question ce matin d'exclure les clubs séparatistes des compétitions européennes. Pas de sanctions non plus contre les joueurs. Alexander Seferin, le patron de l'UEFA, avait eu des premiers mots très durs, mais maintenant que la partie est finie, il n'a pas l'intention d'en rajouter. De fait, à l'UEFA, la ligne dominante, c'est la clémence. Les clubs qui ont voulu partir vont devoir supporter la honte de leur tentative de putsch ratée. C'est déjà suffisant, analyse-t-on en coulisses. On peut toutefois imaginer des sanctions financières, mineures ou encore l'exclusion des présidents de clubs séparatistes des grandes instances décisionnaires de l'Europe du foot. Rien de plus. Le Real, la Juventus, Manchester et consorts sont peut-être des clubs rebelles, mais ce sont surtout des poules aux œufs d'or qu'il faut savoir ménager.
Et puis il y a un hommage aujourd'hui. De l'autre côté de la Manche, un chien de l'armée française tué en opération au Mali va être décoré à titre posthume de la médaille Deakin. C'est la plus haute distinction britannique pour les animaux. À ce jour, 36 chiens, 32 pigeons, 4 chevaux et un chat l'ont reçu.
La médaille Deakin, je découvre. Après cela dit, ces chiens sont impressionnants à chaque fois.
Ah oui.
Je me souviens de la chienne du Raid, pour le coup, qui était intervenue à Saint-Denis.
Oh, joli, elle l'a reçu.
Joli le nom. Elle l'a reçu.
Bien
cette
sûr.
Oui, c'est impressionnant, ces animaux, l'intelligence qu'ils ont et le service qu'ils nous rendent. Merci Sophie Echen, il est 7h39 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'interview politique à 8h15, le premier secrétaire du Parti communiste français, Fabien Roussel. Il fait partie des candidats déjà déclarés pour la présidentielle. On va parler de la gauche en 2022, mais de la pandémie aussi. Fabien Roussel dénonce les prix des vaccins. Il répondra ce matin aux questions de Sonia Mabrouk. Dans un instant, Julien Dufresne-Lamy, écrivain et auteur de Anti-chute, une histoire de cheveux chez Flammarion. Le tête-à-tête Europe Matin à suivre. Un homme sur quatre est concerné et c'est du tabou de la calvitie dont nous allons parler. Tout de suite, sans transition possible, la Toucham. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu, on a le droit d'utiliser le puits à Chifoumi, c'est pour un ami ministre, Jean-Michel.
La réponse dans un instant. Oui, je crois qu'on peut.
Pas sûr.
A tout de suite sur Europe 1.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h42 sur Europe 1. L'heure de la Toucham, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. À quelques heures du week-end, je tenais à rendre évidemment hommage à celui qui, cette semaine, nous a changé les idées, celui qui nous permet de nous évader de ce quotidien aussi triste que monotone, celui qui nous fait rêver. Mais non, arrêtez la musique en revanche, parce que je ne parle pas du tout de Thomas Pesquet. Non, c'est pas de lui dont il s'agit. Non, Thomas Pesquet, ça va 5 minutes, c'est bon hein. Tout le monde est en édition spéciale depuis 5h du mat, alors qu'il décolle à 11h49. Il y a des décomptes à la télé.
C'est
ils quand en
même
font
dans 4h, 6 minutes et 2 secondes.
Mais vous avez en retrouvé. Non, mais on se détend. Il part à 400 km. 400, ça, c'est un Paris-Besançon. En combinaison, certes, mais c'est Paris-Besac, quoi. Je suis toujours aussi jaloux.
Ouais,
oui. Non, celui qui nous fait rêver, c'est bien évidemment lui, le seul, l'unique, Jean-Michel Blanquer, qui était en visite dans une école de Livry-Gargan.
Il a joué à la Marelle et à Pierre-Feuille-Ciseaux, également appelé Chifoumi, avec un enfant.
Eh oui, après Jean-Michel fait du saut de haie, après Jean-Michel fait du paddle, après Jean-Michel fait de la varap et Jean-Michel fait de la gym. Voici donc Jean-Michel joue à la Marelle dans des cerceaux. C'est notre Martine à nous, mais avec la tête, donc le fétide de la famille Adams. Dans ces moments-là, j'aimerais vraiment être une petite souris pour assister au brief agenda des ministres. Alors Gérald, tu accompagnes le président à Montpellier. Olivier, tu prépares la conf de jeudi. Marlène, t'évites de trop parler partout. Et oui, Jean-Michel. Ah, c'est vrai qu'il est là. Toi, Jean-Michel, tu vas aller jouer à la Marelle. Voilà, super. Il est content, en plus. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Vous passerez un très bon moment. C'est un spa pour le cerveau, ça détend. Et si vous n'arrivez pas à trouver la vidéo, tapez « animal blessé saute » sur YouTube. Vous trouverez un résultat similaire. Non, mais si, on dirait une biche qui s'est pris une balle. On peut le dire. Et de toute la couverture médiatique dont a bénéficié la séquence, c'est La Dépêche qui nous a offert le meilleur titre. Jean-Michel Blanquer joue à la Marelle et perd à Chifoumi contre un enfant. Et l'article est pas mal aussi. Hein. Jean-Michel Blanquer n'a pas résisté au plaisir de jouer à la Marelle. J'aime beaucoup le « n'a pas pu résister ». J'imagine vraiment hyper sérieux dans son costard devant les journalistes quand soudain « Oh, une Marelle non, je peux pas y aller, ce serait « Ah, faut que je résiste, mais c'est trop dur, ah, tant pis, allez, j'adore la Marelle, j'y vais !» Suite de l'article, il a donc débuté le parcours à cloche-pied. Arrivé au ciel où l'attendait un élève, le ministre a fait un duel de pierre-feuille-ciseaux avec un enfant. Jean-Michel Blanquer a perdu ce duel. Oh, ce fait de ses journées. Chérie, ça s'est bien passé? Oui, j'ai fait une Marelle et un Chifoumi. Ah, bah c'est bien. Bah tiens, tu prends tes chocopops. C'est... Non. Tu iras faire de la corde à sauter quand t'auras fini tes devoirs. Pareil pour la patte patrouille. La rentrée, c'est dans 3 jours. C'est un monde, ça. Il va nous faire une très très belle fin de quinquennat, Jean-Michel Blanquer. BFM TV, 14h12, à la une de l'actualité. La vaccination, évidemment, qui a priorité au direct. On se rend à Poitiers, où Jean-Michel Blanquer est en train de jouer à épervier en chasse. À moins qu'il ne s'agisse d'un saut de mouton. Un ministre de l'Éducation qui, oula, qui est en train de convulser en direct. Ah non, il court là ? Ah, autant pour moi, j'aurais juré que... Bon. Merci monsieur le ministre, et vivement le prochain épisode de Martine.
Merci, la touchable, c'est tous les matins à 7h40. Et c'est sur Europe 1, merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve avec Philippe Vandel, Culture Média,
à
10h tout à l'heure. Il est 7h45.
Europe Matin, le 7-9.
Un tabou masculin dans le tête-à-tête Europe Matin aujourd'hui. Quel est le point commun entre Bruce Willis, Jean-Michel Blanquer, tiens, et Zinedine Zidane ? Vous l'avez compris, on va parler de calvitie. Un Français sur quatre, un homme sur trois après 65 ans. Et je vous l'apprends peut-être pour certains, c'est une grande souffrance, sociale notamment. Mon invité Julien Dufresne-Lamy, écrivain et auteur de Antichute, une histoire de cheveux chez Flammarion.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Julien Dufresne-Lamy.
Bonjour.
D'abord, le mot qu'il faut interroger, c'est le mot tabou. Vous, vous perdez vos cheveux à l'âge de 22 ans, vous en avez 33 aujourd'hui, et ce que vous décrivez, on va en parler, c'est une grande souffrance. Mais si un quart des hommes sont concernés, pourquoi est-ce que la calvitie est un tel tabou ?
Alors ça, c'est une vaste question. Alors, je ne sais pas si on peut parler de tabou, mais ça reste un complexe qui n'est pas légitime, en fait, dans les conversations. C'est souvent même un sujet de raillerie, de plaisanterie facile. Le type qui perd ses cheveux, c'est le bon copain sur lequel il est facile de taper. Je crois que... On vit quand même dans une société assez patriarcale et c'est difficile encore de concevoir, de toucher à cette image de l'homme. L'homme ne peut pas vraiment parler de ses complexes.
On va parler justement de cette question de l'image masculine, pour ne pas dire virile. Le calvitie, front dégarni, crâne rasé tout court. D'un point de vue médical, on parle d'alopécie génétique et qui touche principalement les hommes. Vous y voyez, vous, une atteinte à la virilité ?
J'y vois une altération d'abord, une modification de l'image qu'on a de soi. Je pense que c'est là la première des violences, en fait. La fin d'une certaine jeunesse, quand on perd ses cheveux, quand on commence à les perdre à 20, 21, 22 ans, quand on est justement dans cette jeunesse-là, et qu'on comprend, qu'on réalise, qu'on commence à vieillir, c'est le début des angoisses. Et puis on comprend à quel point c'est violent quand on sait qu'on vit dans une société quand même obsédée par l'image, par le paraître et par le jeunisme.
Oui, mais alors certainement pour l'image, le paraître, le jeunisme, oui. On aurait pu penser que cette question capillaire était féminine. Si on est dans un cliché, je repensais à T'es une fille, t'as pas de shampoing, cette question des cheveux longs, cette question. Il y a aussi tout un tas d'hommes qui s'assument complètement avec le crâne rasé. C'est une question de virilité quand même.
Je crois que c'est une question d'identité, oui, c'est ça. Donc évidemment, le cheveu féminin dit la féminité, dit la beauté. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, c'est pour ça qu'on tond les femmes depuis des siècles lorsqu'on les juge indignes ou coupables. Et à l'inverse, c'est la même chose pour les hommes, évidemment, que le cheveu est aussi un certain symbole d'une masculinité, d'un certain charisme, d'un certain aplomb, en tout cas de ce qu'on attend encore aujourd'hui d'un homme dans nos sociétés très virilistes.
Alors dans le livre, on va suivre avec vous ce chemin jusqu'aux implants, jusqu'à l'opération. Mais d'abord, les premières chutes. Alors aux premières chutes, moi je connaissais l'expression « ramener la banlieue sur Paris ». Les Japonais parlent de coiffure code-barre. C'est ce que vous racontez, parce qu'on va chercher à masquer cette calvitie, bien sûr, c'est un processus. Vous explorez aussi la question des traitements. Et alors là, si on n'est pas concerné, qu'on ne connaît pas, c'est franchement effrayant. Selon les molécules, les effets secondaires, on parle de risque dépressif, de chute de libido.
Oui, les effets secondaires de certains. Enfin, il existe deux médicaments pour effectivement pallier, endiguer cette chute-là. Notamment, il y a un médicament à base de finastéride, qui est une molécule effectivement assez forte, qui a des effets secondaires plutôt très controversés, état dépressif, même état suicidaire. Même après l'arrêt du médicament, certains effets subsistent chez certains patients. Donc, c'est à prendre avec des pincettes.
Trahit finalement que le risque pris avec des médicaments et de tels effets secondaires, c'est qu'on est prêt à tout finalement pour retrouver du cheveu ou en tout cas pour endiguer cette chute.
Je crois que oui. Après, évidemment, chaque parcours est différent. Mais moi, pendant des années, j'avais mis de côté évidemment cette solution parce que je la pensais évidemment trop radicale et peut-être trop risquée. Mais ça dit à quel point finalement ce complexe qui paraît esthétique, qui paraît superficiel, qui paraît très trivial, peut venir abîmer intérieurement.
J'accélère et j'arrive à l'idée de l'opération. Vous êtes allé en Turquie pour bénéficier d'une greffe. Bon, c'est très clairement une question financière. Combien ça coûte des implants ?
En Turquie, ça coûte 3 à 5 fois moins cher qu'en France, donc c'est-à-dire entre 2 et 4 000 euros.
c'est ce que vous avez payé vous en Turquie. Ouais. Et en France, on est autour de 10 000 minimum,
oui,
c'est ça.
Ouais.
Dans le détail, ce sont 10 heures d'opération. Ouais. Là aussi, hein, c'est pas forcément évident, mais c'est alors le sacrifice derrière. Je regardais les contraintes en termes de régime alimentaire, de position du sommeil, et puis ça met du temps, ça repousse pas du jour au lendemain non plus.
Oui, on doit finalement, il faut s'armer de patience. La repousse met environ un an à un an et demi, puisqu'il faut respecter en fait le cycle du cheveu. Quand on se fait implanter des greffons qui deviennent des cheveux, d'abord les greffons tombent, puisque c'est le cycle télogène du cheveu, et ensuite à partir du 3, 4, 5e mois, on gagne 10% de densité capillaire, mois après mois.
C'était il y a combien de temps pour vous ?
Il y a un an et demi.
Il y a un an et demi. Vous n'avez pas eu peur du voyage en Turquie ? Je veux dire, si c'est 4 fois moins cher, c'est qu'il y a une raison.
Non, j'ai pas tellement eu peur parce que je voyais vraiment ce parcours comme ça capillaire comme déjà un voyage et ce départ comme ça à l'étranger, finalement c'était mon dernier passage à l'acte, c'était ma dernière étape.
Moi je veux qu'on arrive ce matin à mesurer ce que ça a pu représenter comme souffrance pour vous comme pour d'autres, mais vous dites, et ça peut paraître choquant, hein, mais vous dites que vous attendiez votre greffe comme on pourrait attendre un don d'organes.
Voilà, évidemment, là, moi, comme je suis romancier, j'y ai mis du symbole et j'y ai mis évidemment de la dramatisation. C'est évidemment à prendre comme une métaphore sur le besoin et l'urgence que j'avais de venir justement corriger ces 10 années à avoir vécu dans une forme de honte et de désolation de ma propre image et de moi-même.
Antichute, c'est votre livre, hein, un récit à la première personne. Vous dites avoir longtemps hésité à raconter votre histoire. Pourquoi ? C'est la honte ?
Non, c'est un sujet qui paraît comme ça plutôt anodin, puisqu'on connaît tous des hommes dégarnis, des hommes chauves. Et parler de soi quand on est un homme, c'est en tout cas de parler de ses vulnérabilités, de ses zones comme ça un peu fragiles, c'est souvent minimisé parce qu'on considère encore aujourd'hui que l'injonction physique, il est beaucoup plus prégnant du côté des femmes, par exemple, ce qui n'est pas vrai. Enfin, les hommes ne sont pas au-dessus évidemment de leur rapport au corps.
Je voulais dire socialement, exactement, comment est-ce que ça se matérialise ? Je veux dire... Nous, pardonnez-moi, avec cheveux, on n'a pas l'impression d'ostraciser, de montrer du doigt les chauves dans la rue. Oui, il peut y avoir une vanne par-ci, par-là, entre copains, mais vous vous sentez, faut le dire, quoi, visé, regardé quand vous marchez dans la rue.
Parce que c'est d'abord une sorte d'affaire à soi, c'est une affaire intérieure. Je pense qu'effectivement, quand la peur, c'est une crainte du regard des autres. Quand on sait évidemment que moi, quand je croise aujourd'hui un homme dégarni, j'ai pas l'impression effectivement de le regarder de haut, de le regarder avec mépris. Mais c'est comme toute affaire de complexe, c'est une affaire à soi.
J'aimerais vous passer un petit extrait vidéo du comédien, réalisateur, l'humoriste Éric Judor qui lance sa marque de cosmétiques. Alors il le fait avec sourire, alors il est le crâne rasé, hein, Éric Judor, pour ceux qui ne le situent pas, il le fait avec le sourire, mais il le fait vraiment, tiens, écoutez.
Je me suis rendu compte qu'on était les laissés pour compte, nous, dans les produits cosmétiques, nous les chauves. C'est-à-dire, il y a des crèmes pour les mains, crèmes pour le nez, crèmes pour les oreilles, crèmes pour l'après-soleil, l'avant-soleil, le plein soleil, mais il n'y a pas de crème pour les gens qui ont la surface de peau la plus grande, en fait, du visage.
C'est quoi l'idée de votre livre ? D'en parler, de ne pas ignorer, peut-être rassurer ceux à qui ça arrive ?
Oui, c'est surtout de montrer finalement qu'on peut raconter la vie de quelqu'un à travers la vie de ses cheveux. Moi, j'avais envie de raconter, au-delà évidemment de mon parcours capillaire, de raconter aussi mon apprentissage, mon intimité, mon rapport amoureux, mon rapport à la famille, que finalement nos cheveux nous représentent et nous soutiennent toujours, qu'on soit homme, femme, quel que soit notre pays, notre religion, notre civilisation. Le cheveu, quand on regarde les cheveux de quelqu'un, on en apprend toujours un peu sur l'autre et sur l'altérité.
Et on explore, oui, cette symbolique, hein, du cheveu. Ce livre, je le disais, témoignage à la première personne, mais c'est un livre d'auteur, l'auteur que vous êtes. Merci beaucoup, Julien Dufresne-Lamy, Antichute chez Flammarion. Merci mille fois. Un homme sur quatre concerné, je voulais absolument qu'on en parle ce matin. 7h54.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans quelques secondes, l'édito politique, Mickaël Darmon, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h56 sur Europe 1 et nous retrouvons Mickaël Darmon.
Bonjour Mickaël.
Bonjour à tous.
L'édito politique, chef du service politique d'Europe 1, Mickaël Darmon, ce déconfinement, vous dites, est politique. Pourquoi ?
Ben parce que cette semaine, on a marché sur la tête au sommet de l'État. Cette conférence de presse, elle était surréaliste. On a vu le Premier ministre, flanqué de ses ministres de l'Éducation, de la Santé, de l'Intérieur, venir confirmer des informations que l'on connaissait depuis le début de la semaine.
Mais c'est vrai.
Parce qu'en fait, elles avaient fuité bien opportunément dans la presse. Alors en fait, ce qui remonte des couloirs de Matignon et des ministères, alors lorsqu'on s'échappe des éléments de langage lénifiants sur le gouvernement pleinement engagé dans la lutte contre la crise sanitaire, eh bien tout simplement, on se dit agacé de ces petits jeux en lançant des regards bien appuyé vers l'Elysée. D'où cette conférence de presse où le sens de la prudence était en contradiction avec l'électrochoc politique que cherche à donner Emmanuel Macron. C'est son deuxième déconfinement de printemps. L'année dernière, il avait un frein qui s'appelait Édouard Philippe, hein, qui ne voulait pas bouger tant que la dernière signature de l'administration n'était pas sèche en bas de la page. Cette fois, il a le vaccin et un Premier ministre qui peut râler, mais qui fait le job pour lequel il a été nommé. Parce que comme disait l'autre, le président fait tout, le gouvernement fait le reste, même s'il le fait un peu trop prudemment. Le chef de l'État veut que ça reparte, que les Français soient vaccinés contre le Covid et que le système gouvernemental et administratif, lui, soit vacciné contre la peur.
D'où le calendrier qui a été tenu cette fois.
Ah, bien vu, effectivement, Mathieu. C'est la première fois. Effectivement, c'est le signe également que ce déconfinement est bien politique. On en est convaincu à l'Élysée. Il ne faut pas se louper. Après l'été, il faut que la vie reprenne comme avant, en ayant banalisé la vaccination, comme pour les masques. Vivre avec le virus, en fait, c'est vivre avec le vaccin qu'il faudra très certainement réinjecter chaque année. Ce qui doit permettre à l'automne, du côté du président, de poser un discours d'après-crise. Il pourra le refaire tout le film et démontrer la cohérence de son action. Il faudra quand même tout de même que la reprise économique soit au rendez-vous et que la circulation du virus ne reprenne pas avec beaucoup de trop de vitesse, que les Français décident enfin de faire confiance aux vaccins qui ont permis aux Anglais de ressortir. Bref, oui. Pour le dernier virage de son quinquennat, le président veut le retour des jours heureux, pas le maintien des jours peureux.
On l'a senti en début de semaine, nous étions en Israël, vous parliez de l'Angleterre à l'instant. La vie normale après l'été, peut-être la vie avec le virus ou avec le vaccin, mais sans masque, surtout retrouver un semblant de...
Et ça, ce sera l'étape d'après, vous imaginez. De toute façon, on a compris, l'exception française, c'est 5-6 mois de plus que les autres.
Votre édito politique, merci beaucoup Michael Darmon. On retrouve Nicolas Bétou lundi matin. Vous, Michael, on vous retrouve dimanche matin, 10h.
Valérie Pécresse, effectivement, et CNews et Les Échos.
Dans le grand rendez-vous, bien sûr, 7h50. Laurent Cabrol est avec nous à 7h59, c'est l'heure de la météo.
Oui, et je vous offre, chers amis auditeurs, tout le bleu du ciel aujourd'hui, puisque franchement, rarement le ciel est unanimement bleu. Eh bien aujourd'hui, il sera bleu partout, le ciel est dégagé totalement à l'heure où nous parlons. Je sais bien que quand on est agriculteur, qu'on vit de la terre, on rêve de pluie, parce que franchement, on en manque. Mais bon, avec un peu de chance, la semaine prochaine, sur les régions de la moitié sud, il y aura de la pluie, mais c'est tout. Sur la moitié nord, ce sera encore difficile à arriver. Hein. Cette pluie sera vraiment très lente à arriver. Alors aujourd'hui, bon, rien à dire, il fait beau partout, avec des températures de 17 à Belfort, 18 à Strasbourg, 19 degrés en Normandie, 20 degrés en région parisienne, 21 à Bourges, à Lyon, dans le Jura, 22, 23 dans le Finistère, 24 à Toulouse, 25 à Bordeaux, 26 à Cahors. Vous voyez, ce sont des températures largement printanières, pour ne pas dire estivales. Demain, du soleil aussi, beaucoup, mais avec un petit voile près de l'Atlantique. Dimanche, le temps va se dégrader, les nuages arrivent par le sud, et la semaine prochaine, moitié nord, moitié sud de la pluie, moitié nord du soleil.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.